Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain utile. Et notre stagiaire de luxe, Jean-Luc Lemoine, pour son écran de veille spécial JT. Notre invité, le rappeur Attic, qui va nous présenter son premier album studio, il s'appelle Vague à l'âme. Hélène Manarino sera là, elle va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables des pionnières du risque avec Nicolas Caro, on parlait de livres évidemment, et puis une histoire de divorce dans un jeu vidéo, c'est pas fréquent. C'est Clément Le Saffre qui va tout nous expliquer. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe, bonjour Eva.
Votre stage continue, qu'avez-vous regardé hier à la télévision ?
Alors j'ai beaucoup regardé les JT hier, et notamment le JT de 12h58 de TF1. Parce que je le dis, et j'ai pas peur de dénoncer, ils mentent quand ils disent le 13h. Ouais, deuxième jour et je mets déjà les pieds dans le plat, j'en ai rien à foutre. Je fais que 5 jours dans l'émission. Je voulais regarder car il recevait quand même Olivier Véran. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais depuis un an, il a eu un petit buzz. Donc, l'avoir dans le JT, c'était quand même important. Mais moins important que le premier sujet, visiblement. Oui, parce que malgré la présence du ministre de la Santé, ils ont préféré ouvrir avec ça.
Vu les températures, ce n'est pas vraiment en t-shirt que les enfants ont fait ce matin la chasse aux œufs.
Oui, la chasse aux œufs. Le reportage a duré 2 minutes. 2 minutes exaltantes où une équipe de reportage a été dépêchée dans le Rhône pour suivre 5 enfants qui cherchent des œufs dans un jardin. Je dis rien, mais sur les attestations, va vraiment falloir surveiller les motifs valables de déplacement. Hein. Bon, je vais quand même faire un résumé de ce grand moment de télé.
Ce matin, les chasseurs à l'œil aiguisé.
Un chocolat.
Un chocolat.
J'en ai trouvé un.
Une boule au chocolat.
Merci les cloches.
Voilà. Et pendant ce temps-là, il y avait Olivier Véran qui attendait. Il n'était pas très content. Je le sais parce que il me l'a dit hier soir, quand on dînait avec Jean-Michel Blanquer dans un restaurant clandestin.
Non.
Si. On a mangé des tacos.
Vous pouvez pas dire ça.
C'est de l'humour, évidemment. Pardon, mais je m'adapte à l'actualité. Il semblerait que ce soit drôle de dire que tu fais des restos clandestins avec des ministres. Je l'ai compris en écoutant l'avocat de Pierre-Jean Chalençon.
Pierre-Jean Chalençon a toujours apprécié faire de l'humour. Quand celui-ci précise qu'il dîne avec des ministres, il manie le sens de l'absurde.
Pour être précis, l'avocat a même dit qu'il maniait avec brio le sens de l'absurde. Non, faut rester humble quand même. Hein. L'humour absurde, pardon, mais c'est autre chose. Par exemple, c'est quand BFM TV fait plus de mystère sur l'identité présumée de l'organisateur, mais laisse quand même sa voix déformée juste après.
Parmi les organisateurs, Pierre-Jean Chalençon, un célèbre collectionneur, et voici ce qu'il affirme.
J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants clandestins.
Vous avez donné son nom ! Ça sert à rien de trafiquer sa voix, ça c'est absurde. L'humour absurde, c'est par exemple quand Adeline François, la coprésentatrice de la matinale, dit ça en sortie d'un reportage sur un convoi de momies en Égypte.
On se demandait si les pharaons, ils avaient des photos de profil pour Facebook.
Est-ce que les pharaons ont des photos de profil pour Facebook ? Ça, ok, je valide. Humour absurde. En tout cas, toutes les chaînes infos ont parlé de cette soirée très clandestine qui avait été annoncée avec discrétion sur Instagram. Là, c'est des mecs qui vont à la guerre avec des trifluos. Hein. C'est des génies. Et ils ont même interviewé la voisine de Pierre-Jean sur France 2, Bérangère.
J'ai été invitée par mon mail. Et comme il faut quand même payer plus de 200 euros pour ça, j'étais invitée payante.
Ah oui, quand même. Plus de 200 euros, ça fait cher l'invitation de voisinage. Hein. Mais ça va, Bérangère n'en a tiré aucune amertume. Du coup, quand on lui a demandé de dénoncer un peu, il faut vraiment insister pour lui tirer les vers du nez.
Voilà. Tu sais qu'il y avait eu combien de personnes ?
Oh, je pense au moins 200.
Eh ben, belle la fête des voisins cette année.
Merci Jean-Luc Lemoine. Ah, Eva, je me tourne vers vous. Un zapping un peu particulier, car vous m'avez dit avoir eu un coup de cœur pour un documentaire.
Exactement, Philippe, et le sujet est...
Il y a le pilon, la beuh, la tarchiche, le shit.
La ganja, la weed, la marijuana.
Un ouinge, un chon, un chouche.
Le stick, le gums, le méo.
Bon, la drogue, hein, pour faire clair, si vous n'avez pas compris, voilà.
Le ouinge.
Et voilà, et plus précisément, le cannabis, intitulé « Jeunesse en fumée », ce documentaire donne la parole à des jeunes et à des médecins. L'objectif, c'est vraiment d'alerter sur les dangers du cannabis, qui est 10 fois plus puissant qu'il y a 30 ans. Il y a le 1er juin, vous savez, la cigarette qui fait rire, partagée avec les copains. Et puis, il y a très rapidement les premiers achats de cannabis et les premiers effets secondaires. Comme le raconte Gaël, il a 20 ans.
J'ai une espèce de flemme qui est montée. Et en première, en terminale, j'ai commencé à complètement décrocher sur le plan des mathématiques et de la physique, alors que j'étais en S. J'avais l'impression d'être devenu complètement dyslexique. C'était pas le shit directement qui m'avait fait des trous dans la tête ou quoi que ce soit, c'est juste que je faisais pas mes exercices de maths et que, en fait, les maths, c'est assez compliqué parce qu'à partir du moment où on rate une partie, qu'il y a un moment où on fait pas trop attention, on est perdu sur toute la suite. Et au bout d'un moment, au bout de six mois de première, c'était du chinois, quoi.
Alors, à travers ces témoignages qui sont faits à visage découvert, le film explique parfaitement le processus d'isolement social, la dépendance qui se crée. Alors, même si les médecins précisent que nous ne sommes pas tous égaux face aux conséquences de la consommation de cannabis, et puis la vie quotidienne qui se délite, comme pour Aurélien. Alors, lui, il a fumé son premier joint, il avait 11 ans. À 13 ans, il volait déjà pour pouvoir acheter ses doses.
J'avais l'espoir d'avoir une vie cool, sans problème. Voilà, je suis devenu un esclave du produit, esclave de la drogue, et puis ça m'a à peu près niqué tous les domaines de ma vie.
Il est extrêmement émouvant, Aurélien. Et aujourd'hui, à travers, grâce à l'aide d'une association, il ne consomme plus aucune drogue, mais il participe à des actions de prévention dans les collèges. Alors, c'est très difficile de se sortir de cette spirale du cannabis. Johanna, par exemple, vous allez souvent l'entendre, elle n'y parvient pas.
Le cannabis, c'est mon antidépresseur. C'est ce qui vient boucher tous les trous qui me font mal à cause de la dépression. C'est un petit patch, un pansement sur mes douleurs et là où j'ai mal. Et c'est aussi exactement au même moment le couteau qui est en train de me perforer les côtes et le cœur et qui est en train de me causer la dépression au plus profond de moi. Parce que le cannabis a été aussi un facteur très important dans ma dépression. Et je suis sûre et certaine que si jamais j'avais jamais fumé de cannabis, les choses se seraient passées bien différemment, soit déjà dans ma dépression et dans ma vie de manière générale.
Alors ce documentaire signé Andrea Rollins-Gaston et Christophe Astruc, dont il faut louer la réalisation, s'abstient de tout jugement moralisateur. Il a cette qualité de montrer concrètement quels sont les dangers d'une consommation excessive et les ravages qu'elle peut provoquer dans la vie de jeunes gens, notamment s'ils commencent à fumer avant l'âge de 15 ans. C'est un documentaire d'utilité publique qui résonne comme un manifeste et c'est à voir absolument dès 22h50 sur France 2.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain pour le troisième jour. Dans un instant, notre invité, le rappeur Attic. En attendant, on écoute déjà son titre issu de son nouvel album qui sort en ce moment. Ça s'appelle Mère, c'est sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Y'a rien qui nous sépare, à part la mer et quelques kilomètres. T'inquiète pas, j'arrive bientôt, Angela. Car quand t'es loin de moi, c'est plus la même. Toi et moi, on sait ce qu'il faut. Quand je suis dans tes bras, c'est le festival. Je viendrai te rejoindre en surprise. Hey. Marre de ces jeux, t'aimes en suspens. Hey. Elle voudrait tout goûter à ma life. Oh. Mais t'es la seule que je présente à ma daronne. Là, je vais prendre un billet maintenant. Et demain, je serai dans tes bras jusqu'à l'infini. Oh, oh. Je traverserai la mer pour retrouver ton regard.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Attic.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Attic, vous êtes un rappeur, mais pas seulement, on vient d'entendre votre titre mère, donc on note que vous chantez également. Vous avez vraiment découvert dans la série Validée sur Canal+, série autour du rap, signée Franck Gastambide, et votre single Angela a été certifié 10 singles de diamant, soit l'équivalent de plus de 50 millions d'écoutes en streaming. C'était une sorte de tube de l'été, votre actu. C'est votre premier album qui sort, au titre surprenant pour un album de rap traditionnel, mais c'est pas du rap traditionnel, vous allez me dire, Vague à l'âme. Au moment où tout explose, où ça marche pour vous d'une manière presque pharaonique, vous avez du Vague à l'âme.
Oui. Après, le Vague à l'âme, c'est pas que du négatif. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un album qui est quand même beaucoup teinté de mélancolie. C'est un petit peu comme si c'était l'envers du décor. C'est-à-dire que les gens imaginent que quand on a la vie que je peux avoir depuis à peu près un an maintenant, on peut pas se plaindre parce qu'on est heureux, etc. Et le bien-être, en fait, ne passe pas que par ça.
Très bon sujet.
Le bien-être passe par le cœur. Et...
Très bon sujet. C'est comment la vie que vous avez depuis un an ?
C'est une vie qui va à 2000 à l'heure. C'est une vie où on dort pas beaucoup, mais ça, je commence à être habitué depuis le temps. Mais c'est surtout une vie où on doit réapprendre à vivre, en fait. C'est-à-dire qu'on a dû réapprendre à vivre avec le Covid.
Ouais.
Ben moi, j'ai dû réapprendre à vivre deux fois. C'est-à-dire que j'ai réappris à vivre avec le Covid.
Et avec
j'ai
le
réappris
succès.
À vivre avec le succès, la notoriété, le fait d'être reconnu dans la rue. Le fait de plus trop avoir de vie privée, de savoir que tout ce qu'on va faire ou dire va être passé à la loupe des critiques, de tout ce qui se passe sur Internet, etc. Et en vrai, on a même beaucoup d'appréhension par rapport à ses proches, son avenir. Et puis je me pose des questions. Où est-ce que j'ai envie de vivre ? Est-ce que j'ai envie de faire grandir mes enfants là-dedans, etc. C'est très compliqué de réapprendre à vivre comme ça.
On va parler de la musique, carrément un double album. J'ai découvert que vous avez travaillé avec toute une équipe. Vous n'êtes pas tout seul.
Ouais, on a travaillé en équipe, donc il y avait mes trois compos, donc qui sont un trio. Donc il y a Medellin en chef d'orchestre, et après il y a Il Night et Trax qui sont deux co-compositeurs sur l'album, quasiment omniprésents. Et il y avait ma chef de projet. On a travaillé en fait en louant à chaque fois des maisons en Normandie. On a loué une maison en juin et on a loué une maison en septembre, et on a fait l'album là-bas en fait, principalement.
Il y a toute cette équipe autour de vous, mais les textes c'est vous, et ça on voit. Exemple, le titre Crash Test, extrait.
J'ai visé la lune comme un mail, parfois je l'ai touché, parfois je me suis noyé dans la mer. Un petit piano, un petit beat comme à l'ancienne, quand j'avais le cœur intact et zéro problème dans la tête. Je suis pas excité par le bruit d'un RS dans la tête, non. La rue la vraie, moi elle me ramène pas un pal au 6 du mat sur le parking. Je me faisais les RS dans la caisse pendant que ma daronne faisait de l'attention. Moi je cherchais des salopes, pas les couilles de faire le grand. Moi j'ai jamais eu besoin de grand, faut être lâche pour faire le con, mais pour faire le bien faut du cran. Et j'apprends en tombant comme tous mes potes, mes cicatrices valent mieux que tous mes cours de maths de l'époque. Il a fallu que je voie la guerre pour apprécier la paix, il a fallu que je voie la mort pour comprendre la peur, il a fallu que je vive l'amour pour voir ce que c'est d'être seul. Et quand j'ai vu le regard vide de mon père, j'ai vu que c'était en ça. Je suis tombé, j'ai passé tous les crash tests. J'ai perdu mon cœur, il est tombé.
Vous chantez « Maman a vu du sang sur mes baskets », mais je peux pas lui raconter ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez pas raconter ?
Si je le raconte pas dans le morceau, c'est que je peux toujours pas le raconter maintenant. Mais c'est, pour résumer, c'est des petites bêtises qu'on fait quand on est adolescent. C'est une vie de rue à laquelle on prend goût, et la vie de rue va souvent avec les bagarres et les problèmes, etc., etc. Et c'est pas quelque chose qu'on a envie donc que les parents soient au courant, quoi.
Ouais, même 3 litres de rhum Clément, vous dites, je me vois vomir dans la rue sous 6,5 grammes et faire comme si tout allait bien. Vraiment, vous avez vraiment connu un problème d'alcool, ou c'est comme ça pour faire des phrases choc ?
Non, après, j'ai pas mesuré à l'époque en me disant, ah, je suis à 6,5 grammes, c'est juste que 6,5 grammes, c'est beaucoup.
Ouais.
Et que si je dois, c'est, c'est pour la phrase. Après, oui, j'ai bu, comme beaucoup de jeunes, j'ai bu à un rythme assez effréné, mais c'était il y a à peu près 10 ans, quoi. Je suis quasiment à mes 29 ans, j'ai arrêté de boire il y a 8-9 ans, donc voilà.
Les affaires, ça marche bien pour vous ?
Bah, je sais pas de quelles affaires on
parle. Je vais
vous
dire pourquoi j'en parle, parce que vous parlez sans cesse d'argent. L'argent qui manquait et maintenant qui arrive à flot. Même dans son titre, vous dites « Bientôt, je vais racheter la SACEM, voyager dans le monde comme un rentier ». La SACEM, c'est l'organisme qui récupère les droits d'auteur et qui les redistribue.
C'est ça, exactement. Ouais.
Ça rapporte à ce point-là.
Bah, c'est cool. Après, évidemment que je vais pas pouvoir racheter la SACEM, mais j'aime bien le côté exagéré de cette phrase. Après, les affaires marchent, je vais pas m'en cacher, mais maintenant, il y a des affaires qui marchent beaucoup mieux pour plein d'autres gens.
Il y a quelqu'un qui marche, qui court, elle arrive, c'est Hélène Manarino, c'est votre portrait inattendu, Attic avec nous dans Culture Média, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie d'Attic, rappeur, mais pas seulement, son premier double album vient de sortir, il s'appelle Vague à l'âme. Je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Pas de Vague à l'âme, mais le portrait inattendu d'Attic.
Bonjour Attic.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Clem, comme votre maman pouvait vous appeler petit, ou alors gendre idéal, comme vous aimez vous appeler. Votre album s'intitule Vague à l'âme, et pourtant vous avez peur de l'eau, et vous n'aimez pas trop nager. Mais ce matin, on va surfer sur vos secrets, prendre le large de vos souvenirs. T'inquiète pas, comme vous dites souvent, vous ne perdrez pas pied. Alors Attic, commençons notre navigation par votre jeunesse, marquée par votre passion pour les moules frites. Grand sportif, vous avez connu très vite la réussite grâce au judo, au roller, au football, notamment au skatepark au Bois d'Arcy. Vous passiez des heures à jouer au Tactical Ops sur l'ordinateur entre frères. Parfois, vous aimiez jouer à la bagarre. Bon, vous finissiez toujours par casser quelque chose, comme une lampe. Et comme vous êtes le plus grand, vous vous faisiez toujours disputer par rapport à vos frères.
Ouais.
Ce que vous aimiez, créer vos sons en sous-marin dans votre chambre, avec votre micro devant l'un de vos posters des psychiatres de la rime, et écouter cette chanson.
Je me sens comme une bouteille à la mer, noyée dans les vagues de la mélancolie de la vie, comme une bouteille à la mer.
Vous vous sentiez comme une bouteille à la mer, aussi rapper des heures seul et rêver à votre vague de réussite, même si vous pensiez devenir journaliste sportif.
Eh oui, eh oui.
Dingue.
J'espère toujours devenir journaliste sportif un jour.
C'est vrai ?
Quand mais j'en aurai marre du rap. Ouais.
C'est vrai ?
Il n'est jamais trop tard.
C'est vrai, si une rédaction vous appelle, vous irez ?
Ah mais si une rédaction m'appelle tout de suite, je fais une quotidienne.
Eh ben c'est noté, c'est entendu, Attic.
L'appel est lancé.
Bon élève, un peu perturbateur, rien ne pouvait vous arrêter. Ado, vous avez même voulu ressembler à un personnage de la série Sons of Anarchy. Vous avez donc fait une crête comme lui et vous vouliez absolument vous tatouer le crâne. Ouais. Mais vous n'aviez pas le droit. Âme sensible, vous pouviez avoir mal au cœur devant Buffy contre les vampires. Et oui, vous détestez tout ce qui est horreur. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Vous étiez capable de partir dès qu'un épisode de Buffy commençait à la télé. Votre océan de bonheur, c'était surtout avec vos grands-parents, ces longues discussions avec votre grand-père devant les émissions politiques en lui faisant des guilis sur les pieds. Un grand-père qui a toujours été très fier de vous. Vous embarquiez surtout très vite vos amis dans les plus belles soirées. Eh bien oui, Attic, vous aviez toujours des plans pour être invité aux plus grandes fêtes alors que vous ne connaissiez pas la personne qui organisait. Vivre à 100%, ne jamais s'arrêter, c'était ça votre courant de pensée. Faire rire aussi malgré vous, comme ce jour en bas de chez vous, où il y a une petite dispute entre quatre amis. Vous avez voulu calmer le jeu d'un air viril, mais vous êtes tombé dans un trou à côté d'un buisson. Et d'un seul coup, personne ne vous a vu. Alors au moins la dispute est passée en quelques minutes pour laisser place au rire. Attic, le vent de la mer nous pousse jusqu'à aujourd'hui, jamais à contre-courant, vous avez tout compris pour vivre dans un océan de bonheur. À fond, toujours, tout le temps, vous venez de vous mettre aux échecs, c'est simple, vous y jouez tout le temps, vous avez tout acheté, vous vouliez prendre des cours, vous avez acheté une moto alors que vous n'avez pas encore le permis, vous commencez une collection de montres, vous collectionnez les baskets qui portent le nom d'un célèbre joueur de NBA également.
Qui ça peut bien être.
La musique, surtout, la musique vous embarque avec votre team M-I-T-H, que vous avez renommé Mythique. Vous travaillez la nuit, vous êtes capable de sortir 3 sons par soir, tant que vous avez votre matey pêche blanche et votre chicha, tout peut forcément bien se passer. Alors Attic, vous pouvez vous endormir uniquement en écoutant la radio, gourmand aussi, le matin, fromage blanc muesli. Vous pourriez vous nourrir sinon uniquement d'avocat saumon. D'ailleurs, vous êtes très fier de vos sandwichs avocat saumon fumé.
Ouais. Ouais.
C'est vrai.
Genre, je fais des toasts incroyables. Je mets une couche de Philadelphia, une couche de tartine d'avocat, un peu de saumon, du parmesan, un petit filet d'huile d'olive. Pouf, incroyable.
Vous faites de très bonnes salades. Vous êtes surtout un grand fan de pizza. Vous êtes capable de commander des pizzas, de prendre la route avec vos pizzas, mais de faire demi-tour, même si vous êtes loin, car vous avez oublié la sauce piquante.
Ouais, pour de vrai.
Mais vous l'avez fait.
Oui, je l'ai fait. On s'est même embrouillé avec la personne qui vous a donné l'anecdote.
Ouais, bah d'accord, vous
connaissez. Parce qu'il avait oublié la sauce piquante.
Exactement.
Oh, les
grand
embrouilles.
Sens de l'humour. Vous êtes fan des tuches et vous maîtrisez à la perfection l'accent belge.
Bah, ah, oui. Tout à fait, bien sûr. Effectivement, si vous voulez, je peux finir l'interview comme ça, mais
non,
bon.
Non, non. Ouais. C'était très bien là maintenant.
Vous
Hélène.
Enchaînez les blagues et les danses. Enfin, vous aimez danser, mais apparemment, vous ne dansez pas très bien.
Non, 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 non.
Surtout sur cette chanson. Eh oui.
Ça me fait marrer. Hein.
C'est très drôle. Dior, en vacances, pour mettre un peu la honte à tout le monde, d'ailleurs, vous faisiez exprès de danser sur cette chanson. Sinon, vous avez une force de persuasion incroyable, vous êtes capable de faire croire tout ce que vous voulez à tout le monde, présent pour vos amis, bosseur acharné, vous avez parfois du mal à gérer vos affaires, il faut le dire, vous êtes désordonné, vous oubliez régulièrement votre sacoche dans les trains, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, gare de Lyon, vous vous êtes rendu compte dans le taxi que vous n'aviez pas votre sacoche, vous avez fait demi-tour, vous avez couru sur le quai et l'un des contrôleurs l'avait dans la main.
Il m'a quand même pris 300 euros quand il me l'a rendu et je ne m'en suis pas rendu compte, mais...
Ah ben ça, je n'avais pas l'info. Vous oubliez.
Il ouvre la sacoche, il a piqué les 300.
Oui, il a ouvert la sacoche, il a pris, il l'a refermé, il m'a dit « Tenez votre sacoche !»
Vous oubliez souvent votre portefeuille, votre portable en plein milieu de l'aéroport. Mais bon, c'est pour ça que vous êtes unique, Attic. Continuez de naviguer en toute sérénité, pas de vague à l'âme, non. Une vague de succès est là, la marée est haute, sans brume à l'horizon.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Réaction
oh, oh, oh. Incroyable. Alors ouais. Je sais pas qui sont les sources, enfin je sais qui c'est d'ailleurs.
Ouais. Je veux dire c'est un gars qui a un problème avec la sauce piquante. Merci beaucoup Hélène, vous revenez demain.
Évidemment.
Vous restez avec nous à TIC Culture Média,
sûr.
Continuons à parler de
bien
livres,
sûr.
On va parler de jeux vidéo, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Attic, comédien et rappeur, son premier album, un double album, vient de sortir. Il s'appelle Vague à l'âme. Vous étiez nommé dans la catégorie Révélation de l'année aux dernières victoires de la musique. C'est Hervé qui l'a eu. Et il y a 20 minutes, qui vous a demandé est-ce que vous êtes fier de représenter le rap aux victoires. Vous vous souvenez de votre réponse?
Ouais, j'avais dit je suis fier de représenter ma mère, mon banquier, mais je ne représente pas le rap.
Voilà, pourquoi?
Bon, parce que c'est la vérité. Le rap, c'est tellement. C'est tellement vaste, il y a tellement de typologies de rap que surtout je vais juste me concentrer sur ma carrière à moi, je suis pas le porte-drapeau du rap quoi. Si j'ai envie d'être le porte-drapeau, je le serai un jour, mais c'est pas le cas en tout cas.
Ce week-end, il y a Benabar, le chanteur qui a dézingué les victoires de la musique, cérémonie qu'il a qualifiée de parfaitement corrompue. Pour lui, l'événement est comparable à une démocratie où il n'y aurait que les gens de gauche qui voteraient. Et il dit, Benabar, c'est pour ça que je voulais vous en parler, il dit, là c'était encore une fois la preuve d'un petit groupe qui a pris le contrôle et qui confisque. Ils ne parlent pas en mon nom tous ces gens-là. Il n'y avait rien pour les rappeurs, rien pour ceux qui font du métal. Il y a vraiment un mépris. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous ressentez ça comme ça?
Benabar étant un des chanteurs préférés de mes grands-parents, je vais juste en profiter pour lui passer un grand respect. Et après, pour ses propos, je vous avoue que ça ne regarde que lui. Moi, j'étais content d'y être.
Ouais.
Donc, je considère qu'il n'y a pas rien pour les rappeurs, vu que j'y étais. Mmh. Après, on n'a pas gagné. C'est comme ça. Ouais. En vrai, moi, j'y étais, j'ai déjà gagné.
Ouais.
Le fait d'y être, j'ai déjà gagné.
Le trio
maintenant,
final.
Voilà, c'est... J'ai pas perdu contre quelqu'un qui est pas talentueux, au contraire. Donc je suis très content pour Hervé, et c'est le principal. Hein.
Ouais, et juste dernière question sur le sujet. Vous êtes d'accord avec le fait que la catégorie musique urbaine n'existe plus? Pour quelle raison?
Pour la raison que c'était une aberration, puisque du coup on n'a pas de catégorie hip-hop, on n'a pas de catégorie rock. Il y avait une catégorie musique et rap, comme si les deux devaient être séparés. Non, en fait c'est de la musique tout simplement. On va mettre les gens sur le même pied d'égalité, les rappeurs avec les chanteurs pop, machin. Et puis en vrai, ils collaborent tous entre eux. Les rappeurs écrivent pour la pop, les chanteuses pop sont invitées sur les albums de rap. Enfin bon, bref, tout ça n'avait ni queue ni tête. Donc c'est très bien que ça a été arrêté. Je pense que c'est une belle évolution des victoires.
Maintenant, c'est la catégorie jeux vidéo. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe. Bonjour
l'enchaînement est un peu
bonjour
abrupt, Clément. Mais je sais que vous êtes un gamer.
J'ai été. J'ai un peu moins le temps de l'être, mais je.
Tactician Ops. C'est Hélène Manarino qui l'a dit, je sais que vous connaissez, vous étiez à fond dessus. Et là, Clément, ce matin, votre indispensable, c'est un jeu vidéo, un jeu qui vous a beaucoup plu.
Ouais, un jeu qui prend pas énormément de temps, hein, une dizaine d'heures, donc peut-être que vous allez trouver le temps de l'essayer. C'est un jeu pour lequel voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur, moi. On n'est qu'en avril, mais c'est peut-être déjà le meilleur jeu de l'année à mes yeux. Il s'appelle It Takes Two, ça veut dire Il en faut deux en anglais, développé par le studio suédois Hazelight et édité par Electronic Arts. L'histoire commence dans une jolie maison de campagne, celle de Rose et de ses parents May et Cody, un couple plus très heureux puisqu'ils annoncent à la petite fille qu'ils vont divorcer. Forcément, Rose elle est très triste et donc elle se réfugie dans la remise au fond du jardin avec ses jouets et elle tombe sur le livre du docteur Hakim, un thérapeute de couple.
Docteur Hakim, you have
Docteur
to
Hakim
help
il faut absolument m'aider. Mes parents
together.
Doivent rester ensemble.
Look,
regardez, c'est écrit là.
Here.
L'amour, Love c'est du travail.
See?
Vous devez faire un effort. Vous ne pouvez pas abandonner comme ça.
Mom, Dad,
maman, papa, je voudrais que vous soyez à nouveau amis.
Voilà, je précise que le jeu est en anglais sous-titré, le doublage est artisanal, hein, made in européen. Et donc, à partir du vœu de Rose, la magie opère et quelques heures plus tard, ses parents se réveillent transformés en poupée, l'une en laine et l'autre en argile.
Mais là, ça fait penser au film Chérie, j'ai rétréci les gosses, sauf que là, c'est les parents qui ont rétréci ça.
Absolument, c'est totalement ça. Et c'est très bien fait d'ailleurs, parce qu'on est vraiment à hauteur de poupée. Hein. D'un coup, tout paraît immense. Et la particularité du jeu, c'est qu'on y joue obligatoirement à deux. On ne peut pas y jouer seul ni à trois, c'est forcément à deux. Soit sur une même console, hein, sur le même canapé avec deux manettes, soit avec un ami en ligne. Chaque joueur incarne un des parents. Ça fonctionne avec un écran qui est coupé en deux. L'objectif, c'est d'aider May et Cody à retrouver leur corps. Eux, qui ne pouvaient plus se parler ni même se regarder, se retrouvent donc obligés de collaborer pour s'en sortir et retrouver leur fille. Une sorte de thérapie de couple par l'action qui les emmène du grenier au jardin en passant par la chambre de Rose dans une aventure absolument folle.
World is the result of your broken relationship. If you want to go home, you need to find what you've lost.
Voilà, et ce rythme effréné, moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans It Takes Two. Il n'y a pas de temps mort, c'est un mélange de jeux de plateforme, d'aventure, de puzzle. Il y a énormément de choses à faire, avec des mécanismes de jeu différents d'un niveau à l'autre. Il faut être tour à tour habile, malin, rapide, patient. C'est un jeu ingénieux, très facile au début, et puis qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure de la progression. Moi, je me suis énormément amusé en jouant à It Takes Two. C'est le genre de jeu pour lequel il faut se forcer à poser la manette, sinon on y passerait toute la nuit.
Et pourtant, à la base, on le rappelle, c'est un jeu autour du divorce. C'est pas hyper fun comme
thème. Non, et pourtant, voilà, c'est un sujet sérieux, mais qui est traité comme une comédie, en fait, avec beaucoup d'humour et surtout de la malice. Chaque ennemi qu'il faut battre est la matérialisation d'un des problèmes qui a mené au divorce du couple. On affronte, par exemple, un essaim de guêpes parce que Cody a repoussé ad vitam aeternam son enlèvement par les pompiers. Et c'est parfois très drôle, comme lorsque May et Cody sont confrontés à leur vieil aspirateur qui prend la poussière dans la remise.
Une fois que j'aurai récupéré mon corps, je pourrai te réparer.
Alors pourquoi tu as acheté le Turbo X2000, hein ?
Quoi ? Vous m'avez remplacé par un Turbo X2000 ? Cet aspirateur français prétentieux qui n'arrive même pas à aspirer correctement ? Je vais vous montrer qui aspire le mieux.
Voilà, vous noterez encore les talents de doublage de la rédaction d'Europe 1, mais voilà, ça vous donne une idée de l'univers très original d'It Takes Two. Les personnages sont attachants, les décors très jolis et l'histoire très fine. Et si on ajoute en fait ce mélange entre un sujet grave et la façon très légère de l'aborder, bah ça m'a rappelé en fait moi la recette de Pixar, hein, Toy Story bien sûr pour le côté jouet qui vivent une grande aventure, mais surtout les derniers films, hein, Vice Versa, Coco, Soul qui partent de sujets assez tristes, mais de façon assez enfantine. Et croyez-moi, It Takes Two n'a rien à envier à ces films, donc. Si vous avez un PC, une PlayStation ou une Xbox, ne passez pas à côté.
Vous avez tout ça, Tic ? Vous avez une...
J'ai pas d'Xbox.
Mais voilà,
j'ai...
mais sinon vous avez tout le reste.
Sur PC ou
j'ai les autres choses.
Ouais. Est-ce que ça vous a tenté ?
Ben en fait, je trouve ça assez marrant, quoi. C'est un jeu limite... c'est un jeu très adulte, j'ai l'impression. Alors pourtant, ça parle de petits jouets, etc. Mais enfin, le sujet de base est pas drôle. Et ça a l'air intéressant de jouer à ça. Après, je trouve ça marrant le concept de jouer forcément à deux.
Ouais.
Du coup, je vois bien le truc du couple qui rentre tous les soirs et qui fait une heure devant la console pour jouer à ce jeu. Et ouais, c'est cool.
C'est payant, c'est gratuit, on a dit le prix ?
Non, c'est à 40€ et franchement, ça les vaut, hein, vraiment.
Merci beaucoup Clément Le Saffre.
Avec plaisir.
Actique, reste avec nous. On va parler de notre deuxième indispensable, c'est de la littérature avec Nicolas Caro, évidemment. Mais d'abord, musique, c'est London Grammar.
Pure emotion, let it burn like fire. Do you yearn for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake. Do you think about me when you're all alone? When the tide comes in, tell me, where will you go? Do you think about us when you're feeling low? Do you think about us?
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie d'Attic, rappeur, Vagalam, un amoureux des mots, c'est un double album et il y a du texte, et justement Nicolas, ce matin on va parler texte. Nicolas Caro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu avec des femmes intrépides.
Le livre s'appelle Pionnières du risque, sous-titré Histoire de femmes intrépides aux éditions du Trésor, signé Marie-Ève Stenuy. Alors intrépides ne sont pas des histoires d'aventurières stricto sensu qui traversent une jungle ou un désert ou qui découvrent une cité perdue, non. Ce sont plutôt des femmes qui n'ont pas peur de l'adrénaline, qui aiment ça et qui aiment le danger immédiat.
Comme cette femme qu'on voit sortir d'un canon sur la couverture, très belle d'ailleurs.
Exactement. On est en 1877 au Royal Aquarium, la salle de spectacle de Westminster. Au début du printemps, il y a beaucoup de monde. Bien sûr, on regarde les crocodiles et les aquariums. Il y a aussi des spectacles, des comédies musicales, du dressage de chiens. Rien de fou, mais beaucoup de gens sont là pour assister à un spectacle inédit, annoncé depuis des semaines dans les journaux. On ne sait pas vraiment de quoi il retourne, on sait qu'il s'agit de la merveilleuse Zazel. Elle arrive, Zazel, culotte bouffante, corsage rubis et collant rose, elle fait du trapèze volant. Bon, mais soudain donc, on dévoile un canon gigantesque, Zazel se glisse dedans, on ne la voit plus, un type avec une torche crie « Vous êtes prête ?» On entend un « oui » étouffé et boum, explosion, on voit jaillir Zazel, bras tendu, et elle atterrit sur un filet, 6 mètres plus loin, ovation. Je vous ai pas dit, mais Zazel n'a que 14 ans. Son vrai nom, c'est Rosa Richter, c'est une enfant de la balle, née dans le cirque. Au passage, on en apprend beaucoup aussi sur l'exercice du canon humain et son inventeur Farini, William Leonard Hunt, de son vrai nom. Bon, évidemment, c'est pas de la poudre, c'est un système de ressort. Mais ce qui est surtout fascinant ici, c'est que dans ce livre, il y a beaucoup de femmes très intrépides, mais qui sont passées après les hommes. Ouais. Première femme, mais pas premier humain, en aéroplane, sous scaphandre, etc. Là, en fait, Zazel, c'est la toute première.
Ah mince, vous venez d'apprendre que c'était pas de la poudre, mais que c'était des ressorts, ah oui, je sais pas. Oui. Et qui d'autre comme femmes intrépides, alors ?
Maria Spelterini, par exemple. Même époque, elle, c'est une funambule italienne, et elle a traversé sur un fil, donc, les chutes du Niagara. Oh alors là. Ça avait déjà été fait par un Français, Jean-François Gravelet, 15 ans plus tôt. Il a marché en équilibre sur une corde tendue d'une longueur de 400 mètres. Au milieu, il a fait une petite pause. Il a laissé filer une cordelette en bas vers un bateau. On lui a accroché une bouteille de vin, il l'a remontée, il en a bu un coup et il est reparti. Quel intérêt ? Le spectacle, bien sûr, c'est très bien expliqué dans le livre. C'est l'époque où on fait ce genre d'exploits qui sont des divertissements, en fait, en extérieur. Alors, dans un cirque, ça va, on a de quoi voir, on est très proche. Mais en extérieur, il faut amuser la galerie, il faut faire toujours plus spectaculaire. Et c'est pour cette raison que Maria Spelterini va s'y coller. Une femme, c'est nouveau, ça va attirer les foules. Et effectivement, c'est blindé pour la première traversée. Maria Spelterini a 23 ans. Elle a déjà traversé la Neva, la Moscova, ça se passe sans aucun problème. Et ensuite, elle enchaîne, ils savent pas quoi inventer. Arculon, les yeux bandés, toujours sur le fil, les pieds dans des paniers d'osier, à vélo même, mais là ça se passe mal, une roue se bloque et elle chute à la fin du fil. Heureusement, ce sera sans gravité.
Ça se passe toujours dans les airs, votre histoire ?
Oui, alors il y a des scaphandrières aussi par exemple, mais c'est vrai que les airs, c'est ce qui fait le plus peur. Et le livre commence d'ailleurs par les aérostats et autres montgolfières. Les frères montgolfiers, vous savez, ont commencé avec un mouton, un coq et un canard pour tester en 1783. Ensuite, c'est Pilâtre de Rosiers qui a essayé, premier vol humain, même si Louis XVI avait suggéré qu'on essaye avec des criminels plutôt. Engouement total pour l'invention, même si l'Église renacle un peu sur le thème, c'est peut-être pas une si bonne idée de monter au ciel pour des mortels. Ce serait peut-être même une insulte à Dieu. Finalement, ça viendra. Et parmi les figures de femmes aéronautes, il y a Sophie Blanchard. Elle organise des spectacles aériens jusqu'au 6 juillet 1819, 67e vol à Paris. Elle a 42 ans, Sophie Blanchard. Elle doit faire un spectacle pyrotechnique, c'est-à-dire tirer des feux d'artifice depuis son ballon.
Vous avez dit que c'est le dernier, et là on se dit que c'est peut-être pas la meilleure idée de faire ça.
Effectivement, et le vol commence plutôt mal, le ballon heurte des arbres et des fusées bougent un peu. Quand elle allume le feu d'artifice, les fusées filent vers la réserve de gaz. Le ballon prend feu, chute, elle s'écrase sur une maison, elle n'y survit pas. Le public est tellement ému qu'une collecte est organisée, collecte qui financerait un petit monument au Père Lachaise, qui existe toujours, une sculpture d'un ballon en flammes. Il y a des parachutistes aussi, des chasseuses de baleines, des femmes qui forcent le respect.
Voilà. Pionnière du risque, donc, Histoire de femmes intrépides, c'est aux éditions du Trésor. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Attic, ça vous a intéressé, les femmes intrépides?
Ben oui, c'est terrible de voir qu'il y a des femmes qui sont un petit peu, malheureusement, dans l'ombre. Donc, c'est bien qu'il y ait un ouvrage comme ça pour mettre la lumière. Ça me fait penser au film qui est sorti, je crois, l'an dernier, qui s'appelle Figure de l'ombre, ouais, qui parlait des trois femmes qui étaient calculatrices, qui ont permis à la première fusée américaine de rentrer en orbite, sachant que les Russes l'avaient fait juste avant, et donc c'est elles qui ont permis de vraiment faire passer un autre cap à la NASA, parce que c'était des surdoués et c'était des afro-américaines.
Voilà, et on l'a découvert des années, voire des décennies plus tard, que ces femmes-là qui avaient fait tous les calculs. Merci beaucoup Nicolas Carreau.
Merci.
À très vite. Nous on se retrouve dans un instant avec Attic, c'est la dernière partie de Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie du rappeur Attic qui vient de sortir Vague à l'âme, c'est son premier album. Vous avez sorti un EP, mais là c'est le premier gros album, c'est même un double album. On vous avait repéré dans Valider, la série autour du rap signée Franck Gastambide. Vous jouez un jeune rappeur, Apache. Libé écrit à votre sujet, le comédien dont c'est la première expérience crève l'écran. Le jeu, la belle gueule, un charisme inné, combo gagnant. On découvre en même temps qu'il fait de la musique depuis plusieurs années. Comment vous êtes arrivé dans la série ?
En fait, c'est justement par le biais de la musique. Je venais de sortir mes premiers morceaux. Bon, ça fait 10 ans que je fais de la musique, mais là, c'était vraiment mon lancement dans le monde professionnel de la musique, etc. Et il y a l'équipe de Franck qui bossait sur le casting, qui est venue me proposer en fait de passer le casting, et ça tombe bien parce que c'est justement ce que je voulais, donc ça a parfaitement concordé. Et 3 mois plus tard, après 3 essais, j'étais prêt, quoi.
Mise en abîme totale, on va entendre un extrait d'une séquence, ça se passe dans les studios de l'émission de Radio Planète Rap sur Skyrock. Vous êtes un jeune rappeur en devenir qui essaie de croiser... un peu son idole ou des idoles ou se faire connaître, et l'animateur vous confronte à son invité. Il s'appelle Mastar, c'est le numéro 1 du moment.
T'es fan de Mastar en fait, c'est ça ?
Ah ouais, moi, Mastar c'est un de mes rappeurs préférés. Avec Booba, Rof, La Mafia Quinfri. Bon, je suis désolé, c'est que vous êtes en clash, mais je kiffe bien la crime aussi. Mmh. Et puis bah, mon père quand j'étais petit il me faisait écouter NTM et je kiffais à mort.
Et donc maintenant que t'es en face de Mastar, qu'est-ce que t'as envie de lui dire ?
Bah en fait, Mastar, je lui ai envoyé v'là mes sons, mais il m'a jamais répondu.
Ben c'est peut-être l'occasion de lui montrer un petit peu ce que tu vaux maintenant, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Mastar ? Est-ce que tu serais d'accord ?
Il a dit qu'il était chaud, il est monté.
T'es chaud, on te balance une instru ?
Ouais, on peut essayer, ouais.
Ok, allez, c'est parti, instru maintenant.
Ah, appelle-moi pas, Charles, mon Tipeee. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est type. Or qu'il a lâché ses types sur le terrain malgré mes 12 piges. Quand tous mes potes s'amusent la rue à t'as tué mon enfance, donc t'appelles pas Samy, maman bosse.
Apache qui sort son Tipeee, extrait repris au podcast Seriland d'Evaroc qui nous a fourni cet extrait. L'extrait qui démarre, c'est lequel ? C'était un titre à vous, que vous avez écrit vous-même, ou ça venait de la prod ?
Le titre qui démarre là, c'est un morceau que j'ai écrit pour la série. Qui est le premier morceau d'Apache dans la série, dans le premier épisode. C'est avec ça vraiment qu'on me découvre en tant que rappeur. Et c'est un morceau que j'ai écrit spécialement pour la série.
Et ce qui est très intéressant, c'est que les comédiens, il y a ça nulle part ailleurs, les comédiens écrivent les textes qu'ils chantent alors que c'est de la fiction et que ce personnage d'Apache n'existe pas puisque c'est un personnage de fiction.
Exactement.
Il y aura une saison 2 de Validé, je ne vais pas spoiler, mais ce ne sera pas vous. Non. Vous êtes mort à la fin.
Exactement. Donc du voilà. Coup, pour le spoil, c'est cul.
Voilà.
Je ne vais pas spoiler, mais vous êtes mort.
Comment, voilà, exactement.
Est-ce
que pour vous, il y a un avant et un après Validé ?
Bah oui, clairement, hein. C'est validé. En fait, là, on rentre plus dans le monde de le microcosme rap. Là, on est dans la télé. Et la télé, elle touche tout le monde. En plus, bon, c'est Canal, donc y a un côté très franco-français. Enfin, moi, bah, après validé, la première personne qui m'a demandé une photo dans la rue, parce que j'étais pas en France au moment du confinement, donc j'ai laissé 2 mois passer. Quand je suis rentré, la première personne qui m'a parlé, c'était une mamie au supermarché.
Voilà. Et voilà. Vous êtes rentré dans le monde, peut-être du cinéma. Il y a un long métrage qui est annoncé.
Là, je tourne un long métrage à partir de la semaine prochaine. Ouais.
Qu'est-ce que ça va être ?
Bah, c'est un long métrage d'un réalisateur qui est souvent primé, qui fait plus du film d'auteur, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'aime beaucoup son travail.
C'est qui ?
Je sais pas si je peux en parler en fait. C'est ça le problème. Je suis
alors,
désolé.
Ne le dites pas. On n'est pas voilà. Là pour spoiler vraiment.
Ouais, je suis désolé. Je crois que je peux pas en parler, mais en d'accord. Tout cas, c'est un super réalisateur.
Et ça sera à contre-emploi ou vous allez jouer un rappeur, des cités.
Non,
ou...
non, justement, on est dans un truc qui est vraiment un film de genre, un film de terreur. Donc, ça n'a rien à voir avec Validé. L'idée, c'est vraiment de me décrocher de ça pour faire mes preuves en tant qu'acteur, quoi. Parce que même si c'est très gentil à Libé de dire ça, mais je suis pas encore acteur.
Voilà. Et puis un film de terreur pour quelqu'un qui avait peur devant Buffy, c'est comme ça, vous vengez, la boucle est bouclée. Ouais. Il y a eu un avant après Validé, il y a peut-être eu un avant et après Angela, qui a été une sorte de tube de l'été, 100 millions de vues sur YouTube.
Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre.
Même question, qu'est-ce que ce titre a changé pour vous?
Bah, il a changé le fait que quand j'arrive avec Validé, il y a le côté c'est un acteur plus qu'un rappeur, parce que seul le microcosme du rap me connaissait.
Ouais.
Et que les gens se rendent compte avec le succès d'Angela et des morceaux derrière que ah bah peut-être qu'en fait c'était un rappeur avant d'être un acteur quoi. Donc c'est cool parce que ça donne de la légitimité à ce que je fais dans la musique, on va dire.
Et l'industrie de la musique s'est aussi focalisée sur vous et ça vous a fait grandir également.
Bien sûr.
On parlait tout à l'heure d'alcool, vous avez complètement arrêté. Et là où c'est complètement dingue, c'est que vous êtes aussi totalement désintoxiqué des réseaux sociaux. Vous étiez à fond dessus.
Ouais,
Quand Validé sort, vous étiez combien d'heures par jour sur Instagram?
Ouais, j'étais à 10-12 heures par jour à peu près. Quoi. C'est, je me réveillais, j'allumais le téléphone et je passais ma journée dessus. Là, on va dire que je passe moins de temps parce que ce que je fais, c'est que je suis dessus, mais pas directement. C'est-à-dire que je vérifie, j'envoie les contenus qui sont à poster, c'est moi qui les poste, mais via la personne qui gère les réseaux. Donc, c'est toujours mes réseaux. Mais disons que j'ai pris un tout petit peu de distance avec, quoi.
Là, j'ai vu, vous avez fait aucune story. Merci, Attic. Je rappelle, ce double album, on entend du son, il s'appelle Vagalame, et on le trouve partout, sur toutes les plateformes, et en physique, parce que c'est aussi un album physique. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Nous, on revient demain à 9h. On va parler du magazine Vanity Fair, le mensuel, avec le directeur de la rédaction, c'est Joseph Ghosn, le journaliste. Et puis l'animateur et désormais auteur, c'est William Lémergie, pour son premier roman. Il s'appelle Mirebalais ou l'amour interdit. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.